900 cabines réparties en deux classes pour accueillir près de 1900 passagers le temps d'un week-end prolongé.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer.
Les chefs de rang, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, les argentiers, les barmen sont les meilleurs. Ils sont passés par l'école hôtelière de la Transat. Tous veillent à maintenir la tradition culinaire de la compagnie.
France est considérée comme l'une des meilleures tables du monde. Pour ce faire, à chaque traversée, il faut embarquer 15 tonnes de viande, 6 000 kilos de poisson, 50 tonnes de fruits et de légumes, 78 000 œufs, 16 000 bouteilles de vin.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Il y a 60 ans, le 3 février 1962, le paquebot France quittait le port du Havre pour sa première traversée transatlantique vers New York. Et ce fut le début d'une formidable aventure maritime, touristique et gastronomique. Une aventure que l'on vous fait revivre aujourd'hui en paroles et en recettes. À quoi ressemblait ce luxueux palace flottant? Quelle expérience vivait-on dans les salles à manger? Qui était derrière les fourneaux? Et surtout, quelle spécialité? Quel plat trouvait-on au menu? Eh bien, c'est autant de questions que l'on va se poser avec notre historien dans la bande dont on va déguster. C'est Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Loïc?
Ça va, ça va.
Vous êtes chercheur, rappelons-le, à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours, ce qui donne en sigle
IEHCA.
C'est ça, IEHCA, qui dépend de l'Université de Tours, je le disais. Vous avez investigué sur ce paquebot France en fouillant dans ses archives, dans ses menus, dans les témoignages de clients, de cuisiniers. Ça n'a pas été trop compliqué?
À la limite, là, c'est plus la pléthore de témoignages qu'il a fallu gérer.
Voilà, on va condenser et synthétiser avec vous, mais il y a plein de choses passionnantes que l'on va apprendre. Et puis, nous sommes ravis d'accueillir autour de ce plateau Marie-Josée Jarmon. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef des cuisines du ministère des Outre-mer. Attention, c'est du sérieux. On vous a soumis quelques menus, chère Marie-Josée. Des menus du paquebot France, évidemment. Et vous avez pioché deux recettes emblématiques, deux recettes de votre choix, que vous allez cuisiner pour nous en live. Des légumes au menu, hein?
Oui, tout à fait.
On ne dit pas forcément lesquels, parce qu'il y a une petite énigme que je voudrais soumettre à nos auditeurs. Quel légume est à l'origine du potage Germini? Sans donner la réponse, est-ce que nos chroniqueurs ont une idée? Non, personne? Bon, potage Germini.
Absolument pas. Ah. Moi, j'ai une petite idée, moi.
Non. Ah, quand même. Et ben voilà, vous les avez entendus dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui. Notre spécialiste vin, Jérôme Gagnès. Et celui qui vient régulièrement mettre son grain de sel dans l'émission, c'est le monsieur cinéma de France Inter, Laurent Delmas, qui co-anime, rappelons-le, avec Christine Masson, l'historique On aura tout vu le samedi à 10h. Salut les copains.
Bonjour, François Régis.
Jérôme.
Alors, ben c'est un rapport avec la présence de Laurent. La Oula. Cuvée dont je vais vous parler, et c'est le titre d'un des, peut-être un des plus beaux films de Patrice Lecomte.
Que d'énigmes aujourd'hui au menu de cette émission. Parfait. Ben écoutez, on a le résultat des jeux dans le courant de cette émission. Et Laurent?
Pas que beau, mais bon aussi, Neymar.
Ah, pas mal. Des menus en mer au menu de la chronique de Laurent Delmas. Pour interagir avec nous, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, nos recettes, nos podcasts, nos bonnes adresses, nos coups de cœur, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Jérôme et Laurent, vous souvenez-vous de votre soirée du mercredi 16 mars?
Très bien.
Très très bien.
Ah, ça c'est bon signe. Ouais, Nous étions ensemble.
Oui.
Au dernier rang.
Jusqu'au bout.
Du Théâtre de l'Œuvre à Paris pour renifler et déguster.
Oui.
Divin, le nouveau spectacle de François-Xavier de Maison. Divin comme, évidemment, le masculin de divine. Et divin comme 10 cuvées de vin. Oui, car le comédien a choisi 10 vins millésimés qui ont marqué son existence. Et qui raconte en quelque sorte 10 souvenirs marquants. Alors tout y passe, hein, ses amours, sa famille, ses parents, sa femme, sa fille, ses copains, ses désillusions. Allez, un petit exemple, juste un petit avant-goût de ce spectacle qui fut désopilant. François-Xavier de Maison a 18 ans, il vient d'avoir son bac. Et pour le fêter, ses parents l'emmènent au Grand Véfour, le fameux restaurant gastronomique du Palais Royal. Le Grand Véfour, ça doit vous parler évidemment, Charles-Loïc Bienassi.
Ah oui, un des grands restaurants historiques parisiens et dans ce qui était... au début du 19e siècle, le cœur gastronomique de la capitale. Oui.
Son père, le père de François-Xavier de Maison, commande un château du cru Beaucailloux 1986.
Est-ce que
c'est un bon choix ou pas?
Oh oui, c'est un bon choix. Oui, Jérôme, c'est un Gagnez. Beau millésime, Saint-Millésime, parfois un peu austère, 86, très frais, mais ça donnait des vins tendus et des vins d'une grande finesse.
Grand cru, classé de Bordeaux.
De Saint-Julien.
De Saint-Julien, tout à fait, absolument.
L'édition devait être salée.
Ah oui, ça c'est sûr. Il n'en parle pas dans le spectacle, non, mais c'est certain. Hein. Et c'était en même temps une grande occasion où effectivement le papa a vraiment cassé la tirelire.
Absolument.
Et juste après l'évocation de ce millésime bordelais, eh bien, on a le droit, écoutez bien, à une imitation savoureuse.
Drôle.
Un serveur approche et il nous parle comme si on était en phase terminale. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune boutonneux. En menu dégustation de printemps, le chef vous propose son menu retour d'escapade en forêt, alliance terre-mer. Nous sommes sur une escabèche d'écrevisse, puis nous irons sur un pigeonneau farci à la chair de crabe d'Alaska, revenu dessus, dans un jus de cerise griotte, accompagné de sa fine galette de sarrasin cuite à la vapeur d'un geyser du désert du Serengeti, et saupoudré de tomates confites cueillies en Basse-Provence par une jeune fille qui s'appelle Brigitte et qui vous embrasse.
Tous les tics du grand restaurant y sont quand même. Hein.
On s'y croirait.
Ah, oui. On va sûr, on est sûr.
Ah oui, c'était parfait.
Ça, le sourcing c'est... des produits qui va jusqu'au sourire de la maraîchère.
Ah, oui, très très bien.
Bon, ouais. On s'est bien bidonné les copains.
Ah oui, vachement, oui.
On rit énormément et notamment quand il passe par exemple à ces gens du sud-ouest qu'il a découvert récemment.
Ah oui, le copain qui catalan.
Qui carbure au pastis en permanence comme en se levant dès le matin. Enfin, c'est, là aussi, c'est à peine caricatural. C'est-à-dire qu'on les voit, on les entend et c'est réjouissant.
Il y a quand même quelques beaux noms de millésimes qui ont certainement parlé à vos oreilles et votre palais, Jérôme Gagnez.
Bien sûr, ça s'ouvre par un Saint-Pourçain dont malheureusement il ne garde pas un grand souvenir. D'abord parce qu'il n'en a aucun souvenir, il était trop jeune. Mais parce que peut-être qu'à l'époque, les vins n'étaient pas au niveau de ceux d'aujourd'hui. Je vais y revenir très vite, mais il y a le Valpolicella chez la Quintarelli, il y a un Gevrey Chambertin, il y a le Morgonde chez Lapierre, l'illustre Lapierre, il y a le Côte-Rôti chez Yves Gangloff. Ouais. Quel vigneron en vallée du Rhône Nord. Il y a le vin californien de Wendy qu'on imagine bien sirupeux et jourdingue.
Wendy, c'est la copine américaine qu'il retrouve, ouais.
Donc ça, c'est, voilà, on imagine tout ça. Et j'en profite juste pour dire à François-Xavier, il faut retourner à Saint-Pourçain, il faut aller voir Romain Père au domaine des Potiers, il faut aller voir Stéphane Serrol au domaine Serrol, il faut aller voir d'autres domaines, c'est une appellation dingue qui est en pleine effervescence, il y a des vins formidables, il faut retourner à Saint-Pourçain.
D'autant que François-Xavier adore le vin.
Oui.
Il en fait même, on peut le dire, du côté des côtes catalanes.
Exactement, en plein cœur du Roussillon, nous avons avalé goulûment la cuvée Cybelle, qui est un grenache en macération carbonique. Je passe sur les détails techniques, c'est une façon de faire un vin qui le porte beaucoup sur le fruit et l'expression du fruit. Eh bien, nous avions dans notre verre un authentique bon vin de soif à dégainer avec les copains qui passent et un gros saucisson.
Un bon canon de copains, co-vinifié avec Dominique Laporte.
Avec Dominique Laporte, qui est meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France, donc là on rigole plus, et qui effectivement fait partie de l'aventure.
Voilà, François-Xavier de Maison, sur les plateaux de cinéma, sur les planches, mais également dans les vignes. Divin, le spectacle de François-Xavier de Maison au Théâtre de l'Œuvre dans le 9e arrondissement de Paris. Alors ça a été prolongé jusqu'au 7 mai compte tenu du succès et de la petitesse de la salle aussi, hein, il faut bien le dire, puisqu'il y a je crois 300 places. Et ensuite il y aura une tournée dans toute la France de septembre à décembre. Les dates vont bientôt être fixées. À la barre du paquebot France et de ses cuisines aujourd'hui, Laurent Thomas, Guillaume Roux, Nadia Chougui, Beyond the Sea, la version américaine de La Mer de Charles Trenet, ça vous dit quelque chose?
Ah bah oui,
merveille.
Chewbacca nous sert sur un plateau et sur un paquebot la version de Robbie Williams en avant toute sur France Inter.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon.
just like before. Abbey will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire, long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes, atteint rapidement sa vitesse de croisière. C'est dans ce décor que les passagers trouveront la meilleure carte de tous les navires actuellement en service.
C'était en 1962, il y a 60 ans, le 3 février pour être précis, que le paquebot France traversait pour la première fois l'Atlantique, direction New York. Il paraît même que cette première traversée s'est déroulée par gros temps. Et le France est ensuite accueilli 5 jours plus tard, le 8 février, par une parade incroyable de remorqueurs et d'embarcations privées, d'hélicoptères, d'avions. Le paquebot remonte l'Hudson. Il est salué par des milliers de personnes en Amérique. C'était vraiment un événement. Loïc Bienassi, essayons de nous mettre à la place des chanceux qui ont vraiment participé à cette première traversée transatlantique. Sur quel genre de bateau ont embarqué les 1806 passagers?
Alors sur un bateau assez fastueux, 316 mètres de long, le plus long paquebot du monde à ce moment-là, donc 2000 passagers environ, 1000 personnes d'équipage, un navire qui fait du 31 nœuds, c'est-à-dire justement qui est capable de faire cette traversée en 5 jours.
Mmh. 31 nœuds, ça correspond à 60 km/h.
Oui,
hein,
un peu moins, un peu moins, 57 km/h. 12 ponts, 12 étages si on veut, qui représentent 8 hectares de surface, donc vraiment un grand navire. Alors, un grand navire, en sachant que aujourd'hui on a évidemment fait beaucoup plus grand depuis, puisqu'on a, je crois qu'il va être lancé cette année, le Wonder of the Seas, par exemple, qui fait 360 mètres de long.
Il y a eu le Queen Mary 2 aussi.
Alors oui, qui a été le premier à dépasser en fait le France.
Avec 345 mètres, et vous disiez pour le France que c'était 316 mètres.
C'est ça, exactement. Le Titanic, lui, faisait 269 mètres. Donc
beaucoup plus court.
On est sur cette logique qui veut qu'au fil du XXe siècle, les bateaux soient devenus de plus en plus imposants, donc du luxe, hein, évidemment, 2 piscines, un espace pour les enfants de 260 mètres carrés, un espace pour les adolescents aussi, avec bowling, jeux divers, une grande salle de spectacle, qui est peut-être encore, à vérifier, mais la plus grande salle de spectacle qui ait jamais existé au sein d'un paquebot.
600 places, non ?
600 places, avec au balcon les premières classes.
Parce qu'il y avait des classes. Hein.
Ah oui, il y avait 2 classes. Une première classe et une classe touriste. Alors, il y avait plus de 3 classes, comme c'était encore le cas dans l'entre-deux-guerres. Le France ou France, il y a 2 écoles, on peut dire Le France ou France, a inauguré en fait un système à 2 classes. Donc, c'est en effet quelque chose de fastueux, et ça se retrouve d'ailleurs dans les salles à manger. On a 3 salles à manger, une salle à manger pour enfants, une vraie salle à manger, hein, pas une cantine, une vraie salle à manger pour les enfants, 100 places, 95 mètres carrés, la salle à manger Versailles, pour la classe touriste, et là aussi, plus de 800 couverts, on a, avec une mezzanine de 300 mètres carrés, donc quelque chose là aussi d'imposant, et la salle à manger Chambord, pour la première classe, et avec une sorte de dôme, j'allais dire, qui évoque avec des spots un ciel étoilé, 5,50 m au plus haut du dôme, comme moteur sous plafond. Là, on a 400 couverts, 700 mètres carrés. Donc, évidemment, on a du luxe incontestablement, qui se retrouve à travers, je sais pas, moi, le matériel de table aussi, Christophe, En veux-tu, en voilà, Cristallerie Saint-Louis, enfin...
Des artisans et des maisons d'ailleurs exclusivement françaises, car oui, il faut quand même préciser que le France, c'était évidemment un instrument, on dirait aujourd'hui que c'est un instrument de soft power. C'était une vitrine flottante de la France et de son prestige retrouvé au moment des Trente Glorieuses.
Alors, c'est tout à fait le cas, mais finalement, c'est toute l'histoire des paquebots et des transatlantiques. C'est-à-dire que cette histoire, elle commence au milieu du 19e siècle et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que le France, par exemple, c'est le troisième navire à s'appeler le France. Il y a eu tout un tas de navires qui aussi portaient des noms de province. Cette idée de concurrence, tout à l'heure on parlait du Queen Mary, il y a cette affirmation à chaque fois de cette fierté nationale et cette concurrence entre pays, clairement, elle est consubstantielle, j'allais dire, à l'histoire des transatlantiques.
Il y avait un peu, en quelque sorte, une bataille navale.
Hein, absolument.
Sur les liaisons transatlantiques entre l'Angleterre, la France,
l'Allemagne,
à celui qui allait faire effectivement le plus beau bateau. Quels arts décoratifs on peut imaginer avec le Normandie, qui était aussi là encore un paquebot français prestigieux, on était vraiment dans l'apogée de l'art déco.
Absolument.
Là, on serait plutôt dans les années, style années 50.
C'est ça. Alors, en fait, on touche un point assez important, je crois. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je dis voilà, c'était le luxe, c'est incontestable. Et en même temps, quand j'évoquais le fait qu'il n'y avait plus que deux classes, par exemple, c'est parce qu'on est dans une sorte de semi-luxe, pour être plus précis.
Ah.
C'est-à-dire que le Normandie, 1935, on est dans le marbre, on est dans une salle à manger qui est haute de trois ponts, trois étages, si on veut. Avec le France, on est quand même dans un luxe, j'allais dire, plus modeste. C'est plus le marbre, ce sont les matériaux de l'époque. On a, par exemple, le formica qui est très présent. Mmh. Alors, on va dire, évidemment, c'est normal, c'est l'époque. Ce n'est plus le même type de face, c'est une forme de modernité. C'est vrai, mais en même temps, on a reproché aux France, par contre, de ne pas être à l'avant-garde non plus. C'est-à-dire que c'est peut-être dans son temps, à travers les matériaux, l'utilisation encore une fois du formica, de l'aluminium laqué, le vinyle.
Le Rislan.
Et donc, on a reproché aux France à la fois le côté hétéroclite dans la décoration et aussi ce manque d'audace en ne faisant pas appel peut-être aux artistes, aux designers qui étaient le plus à la pointe à ce moment-là.
En effet, 48 décorateurs français sont sollicités pour la décoration du France, mais on ne trouve pas parmi ces décorateurs notamment les grandes signatures de l'époque comme Jean Prouvé ou Charlotte Parian.
Tout à fait.
Donc, trois salles à manger.
Trois salles à manger. Chambord pour la première classe.
C'est ça.
Versailles pour la classe touriste.
Et ensuite, on en vient évidemment au vif du sujet, puisqu'on a mis la main sur toute une collection de menus. Grâce d'ailleurs, il faut préciser, à Caroline Poulain de la Bibliothèque municipale de Dijon, qui possède une collection ahurissante de menus de restaurants. Et à la table du paquebot France, voici, écoutez bien, ce que l'on pouvait déguster au deuxième jour de cette traversée inaugurale de l'Atlantique, soit le lendemain du départ du Havre.
Menu du 4 février 1962, dîner classe touriste. Olive verte, olive noire, beurre du Cotentin, jus d'ananas, œufs froids mexicaines, mortadelle de Saint-Romain, petit maquereau mariné au vin blanc, velouté de volaille à la brunoise, suprême de turbotin du Nord, bonne femme, artichaut violet poché à l'huile douce, coquillette à la niçoise, gigot des présalés rôtis à la broche, pomme berrichonne, salade Bellevue, demi-sel, livaro, Saint-Nectaire, gruyère, chester, bombe glacée à la vanille, petit beurre, pomme, orange, buffet froid, jambon de Paris au cornichon, longe de veau mayonnaise, dindonneau des Landes, cranberry sauce. Café français, américain, Sanka, Nescafé, thé de Chine, verveine, tilleul, vin rouge, vin blanc.
Merci au comédien Emmanuel Gory qui a dégusté ce menu pour nous. Vin rouge, vin blanc, par contre, vous êtes un peu frustré.
Ouais, j'aurais voulu plus de précision. J'aurais bien voulu savoir d'où ça venait.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie sur la carte, Marie-Josée Jarmon?
Eh bien, moi, j'aurais aimé goûter à tout, justement. Ça m'a l'air d'être des menus sortis tout droit de l'Escoffier. Donc, c'est très intéressant.
Un certain classicisme culinaire, Laurent.
Mais moi, j'adore la mise en avant des olives, par exemple.
Oui.
Olives noires, olives vertes.
Très
précision. C'est incroyable.
À l'apéritif.
Oui, c'est ça. Oui. De même que la gamme des cafés est quand même assez saisissante. Hein.
Dont un fameux Nescafé, voilà. Symbole d'une certaine modernité dans la tasse à café,
sûr,
quand même.
Ça,
oui. Loïc Bienassi, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion sur l'identité culinaire de ce paquebot France?
Déjà, un premier point qui a été soulevé, un classicisme. Mais un classicisme revendiqué. Hein. Clairement, l'idée que Escoffier, donc guide culinaire 1903, c'est la référence. On fait une cuisine à la Escoffier, j'allais dire à la Prosper Montagnier. Et ça se retrouve dans la présentation aussi. On va facilement mettre ce qu'on appelle des attelés, des petites brochettes pour décorer. Les desserts vont quelquefois représenter des monuments. Il y a vraiment un classicisme qu'on retrouve. Et ce menu-là qu'on a entendu est tout à fait révélateur. Je crois que c'est le premier point. Et un autre point aussi qu'on perçoit immédiatement en écoutant ce menu, c'est la mise en avant des terroirs.
Et oui, alors vraiment, des origines de produits, hein, agneau de Pré-Salé, on entend oui. Beurre du Cotentin, ça fait envie ça aussi.
Absolument.
Et le Cœur-Bretin du Nord.
Absolument.
Alors c'est pas nouveau, hein. Dès l'entre-deux-guerres, il y avait cette... On est dans la phase où les cuisines régionales commencent à être mises en avant dans l'entre-deux-guerres. Bon, bah, c'est dans le prolongement, peut-être plus encore... Parce que, comme on est de le dire, on indique l'origine géographique des produits. Parce que beaucoup de recettes, on l'a entendu aussi, on accole une étiquette régionale. Alors, ça veut d'ailleurs pas nécessairement dire que ce sont des recettes régionales. Hein, ça, c'est, il y avait des pommes de terre à la Berrichonne, par oui. exemple. Donc, on a origine des produits, type de recette. Et le France, d'ailleurs, va vraiment chercher à valoriser ses cuisines des terroirs. Ils vont, par exemple, organiser des menus thématiques, un menu bourguignon, même des traversées thématiques. Il y a eu une traversée où ce qui était mis en avant, c'est la cuisine vendéenne, bretonne et normande, je crois. Donc, vraiment, cette volonté de faire valoir les terroirs, c'est l'autre fil rouge avec ce classicisme de la cuisine du France.
Et là encore, il s'agissait évidemment d'offrir à la gastronomie française une vraie vitrine flottante. La clientèle était à 80% américaine, hein.
Absolument.
Et c'était le meilleur de la France comestible qui était là réuni. Parmi les clients d'ailleurs, hein, signalons qu'il y a eu quand même du beau monde. John Kennedy, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Hitchcock, Michel Morgan, James Stewart, Bourville, Belmondo, Alain Delon. Le France a même transporté, ça n'a rien à voir avec la gastronomie, mais c'est une anecdote croustillante, la Joconde. Pour une exposition dans une cabine adaptée avec la bonne température. Marie-Josée Jarmon, vous auriez aimé être cuisinière sur le France ?
Tout à fait, oui. Je pense que oui, c'était une expérience à faire, effectivement, tout à fait.
Et vous n'êtes pas tout à fait cuisinière sur un bateau, mais ça doit quand même tanguer là où vous êtes ministère des Outre-mer.
Oui, tout à fait.
Vous faites voyager vos convives dans l'assiette ?
J'essaie, oui.
Mais
je voyage.
Est-ce que le fait d'être cuisinière dans ce ministère, qui est quand même tourné évidemment vers nos territoires lointains, est-ce que ça influe sur l'identité de votre cuisine ?
Oui, tout à fait. On travaille beaucoup plus avec les épices, les produits, leurs produits. C'est un beau voyage culinaire.
Et vous êtes d'ailleurs, à ce titre, la première cuisinière de la République. Qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, il y a très peu de femmes chefs dans les ministères. Voilà.
Ah, problème ?
Bon, problème, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est un fait, toujours est-il. Voilà.
Attendez, vous êtes la première femme cuisinière de la République ou la première et seule femme ?
Ben, visiblement, je suis la seule.
Non.
Oui.
Il serait temps que ça change, quand même.
Mais oui.
Non, mais c'est quand même un peu...
C'est étonnant.
Pardon,
c'est surprenant.
C'est un tout petit peu édifiant d'entendre cela, d'autant que... Si je me réfère à une anecdote que j'ai piochée dans ce livre, publié à compte d'auteur du France à la Corrèze de Yves Léonard. Il a travaillé, ce Yves Léonard, pendant pas mal de temps sur le France, pendant 6 ans, très exactement, de 1965 à 1971. Merci d'ailleurs à sa fille Laurence Léonard de m'avoir adressé cette biographie. Écoutez ce qu'il écrit. « Nous étions tous français, alors que les passagers étaient étrangers à 80%, et nous étions tous des hommes. » Jamais une femme n'a été cuisinière sur le paquebot France.
C'est l'époque aussi.
Voilà, c'est ça, oui. C'est l'époque, tout à fait, oui.
Alors, on va essayer de se rattraper comme on peut. On vous a transmis, Marie-Josée Jarmon, quelques menus du France. Et dans le menu du 12 août 1968, il y a une entrée qui vous a fait de l'œil, que vous avez choisie et que vous nous avez cuisinée. De quoi s'agit-il ?
Le potage Germini.
Le potage Germini. Alors, après avoir goûté ce potage que vous avez carrément lié, hein,
oui.
En direct sur la plaque de cuisson dont on va déguster, il est tout chaud dans nos bols. Est-ce que Laurent a une petite idée du légume qui est vraiment mis à l'honneur dans ce potage Germini ?
Le cresson ? Pas du tout.
Il pourrait y avoir un peu ce côté très chlorophylle du cresson, mais avec une acidité supplémentaire.
Ouais. Moi, j'en ai déjà presque plus.
Mais qu'est-ce que c'est
bon. Très, très bon. En tout cas, c'est délicieux.
C'est très, très bon.
Il y a de l'oseille.
Ah ouais. Voilà. Marie-Josée, définition d'un potage Germini.
Tout à fait, c'est ça, potage à l'oseille.
C'est une merveille.
Une merveille.
Ouais. C'est une mise en appétit extraordinaire, parce que là, l'acidité de l'oseille...
C'est de l'acide oxalique, justement. Hein.
C'est vraiment, c'est extraordinairement appétant, ça n'est pas saturant.
Comment vous avez fait ce potage Germini ?
Alors, c'est très simple, c'est une chiffonnade donc, d'oseille, qu'on mouille après avoir fait suer avec du beurre, avec un fond de... un consommé de bœuf, pour moi, pour ma
D'accord.
part, là. Et ensuite, on le lit au dernier moment. Il ne faut pas que ça boue, surtout, avec crème et œuf, liaison jaune d'œuf et crème.
C'est ça qui apporte cette merveilleuse onctuosité en plus. Donc on a l'onctuosité, la rondeur, le côté tapissant de ce potage, et en même temps, ces petites pointes d'acidité qui viennent comme ça vous planter des petites lances sur la langue. Voilà. C'est quand même incroyable, non? Vous en pensez quoi, Loïc?
Ah oui,
vous avez l'air d'un stoïcisme qui m'effraie.
Non, pas du tout, oui. Non. Je découvre, en fait. J'en avais jamais goûté, en fait, du potage Germini. Et c'est un vrai plaisir. J'allais dire, ces grands classiques, de les découvrir, redécouvrir. Donc, je suis ravi, c'est délicieux.
Terminé avec une pluie de cerfeuil et les petits croutons, voilà.
Mais alors,
voilà. Moi j'en ai plus.
Énigme, pourquoi il s'appelle le potage Germini, Marie-Josée?
Il a été fait donc pour un homme qui s'appelait Monsieur Germini, donc qui était gouverneur et client du restaurant Le Café Anglais.
Ah, on dit le tout. Chef Adolphe Duglérez sur les grands boulevards de Paris.
Alors, possible.
Il va nous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Non, mais généralement on donne déjà comme date 1869. Or en fait, si on regarde dans un ouvrage La cuisine classique de 1868, on trouve en fait ce potage Germini à base de petits pois. Hein. Mmh. Il n'y a pas d'oseille qui rentre dans la réalisation. Et en fait, on trouve d'autres recettes courant 19e siècle qui utilisent par exemple de la laitue romaine à la place de l'oseille. Oui. Et qui disent, on peut aussi utiliser de l'oseille. Donc ce que je veux dire, c'est que si on regarde au 19e siècle, la recette n'est pas stabilisée. Et moi, je ne connais rien, mais c'est peut-être le cas, hein, qui relie de façon claire à Duglérez, en effet, qui était le grand chef du Café Anglais. Pour moi, par contre, c'est Escoffier qui a stabilisé la recette,
qui l'a
faite à l'oseille, oui, en 1903.
Qui l'a gravé dans le marbre.
Et depuis, c'est vrai que ce potage Germini, c'est en effet ce potage à l'oseille que nous sommes
et
en train de déguster.
Et il est impossible de comprendre pourquoi ce potage a totalement disparu des bistrots, des tables gastronomiques, potage Germini, potage à l'oseille, impossible de le trouver, hein. On est d'accord.
C'est l'acidité, je pense, qui rebute les gens, et je pense que...
Mais elle est merveilleuse, cette acidité.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marie-Jo, je pense que vous avez raison, il y a un côté acide qui rebute. Et je pense aussi qu'il y a simplement cette liaison qu'on fait au dernier moment, qui est un obstacle à une cuisine qui est faite aujourd'hui beaucoup plus rapidement.
Alors ça, c'est
qui est moins
chose.
Simple à mettre en œuvre.
Ça, vous avez raison. Il faut pas que ça coagule.
Il est bien dommage que nos grands chefs qui ont des brigades, eux, ne mettent pas à l'honneur ce type de potage. Parce que ça, c'est formidable.
Okay. Créons une association de sauvegarde.
Le potage Germini.
Du potage Germini, on est bien d'accord. C'est acté. Les approvisionnements du paquebot France, dans la mesure où il y avait énormément de passagers, jusqu'à 2000, j'imagine qu'on était dans des proportions incroyables, une espèce de gigantisme alimentaire, Loïc Bianassi.
Alors 2000, et puis quand même l'équipage avait le droit de manger, donc 3000 personnes.
Oui, c'est ça, ouais.
Ça a été dit au début de l'émission, c'est en effet quelque chose de très impressionnant. Pour l'anecdote, on peut rappeler aussi d'ailleurs qu'au 19e siècle, les premiers paquebots, parce que la Compagnie Générale Transatlantique a été créée en 1861, les premiers paquebots emportaient leur propre bétail, hein, emportaient des moutons pour, avant évidemment qu'il y ait la réfrigération.
Il y avait un abattoir à bord, etc.
Ben, en tout cas, oui, c'était ça. Et donc là, c'est toute fin 19e, début 20e que tous les dispositifs frigorifiques permettent d'emporter en fait de la viande. Donc pour le France, on est quand même bien loin de ce bétail à transporter, et on a en effet une liste colossale de, alors voilà, 15 tonnes de viande, 2 tonnes et demie de charcuterie, 3000 homards et langoustes, 30 tonnes de pommes de terre et légumes, 70 000 œufs, 60 kilos de caviar. Aussi, parce que j'évoquais ce demi-luxe, mais il y a quand même réellement du luxe pour la première classe. Ce caviar était exclusivement pour la première classe. 7000 bouteilles de champagne, 5000 bouteilles d'apéritifs, 18000 bouteilles de rouge et de blanc, de table, de vin de table, etc., etc. Donc, des proportions qui sont tout à fait considérables.
Selon des statistiques que j'ai trouvées, un aller-retour Le Havre-New York représentait en moyenne 59 000 repas. Et 29 500 petits déjeuners. Voilà. Savez-vous quels crustacés on retrouve le plus souvent sur les menus du France? Eh ben, Loïc Bianassi vient de le citer. Claude Villers, grande voix de France Inter, évidemment, qui consacra une émission au paquebot France en 1990, nous donne une réponse.
Sur France, les homards, on en raffole. Mais la commande la plus extravagante, c'est à New York qu'elle est faite. Là, on embarque 10 000 homards. 10 000. Jamais un aussi grand nombre de crustacés n'a été monté à bord. 10 000 homards qui demandent à Maurice Foch et à ses brigades tournantes de poissonniers un jour et une nuit de travail non-stop. Dans les grandes marmites à vapeur, tous ont été pochés. Aucun n'a été perdu. Et les 10 000 ont été mangés.
10 000 homards, c'est quand même incroyable. Ah oui, vous entendez des bruits de louche parce que tout le monde a réclamé une autre portion de potage Germini. Bravo encore à Marie-Josée Jarmon. Cette recette est merveilleuse et les auditeurs et auditrices peuvent la retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il va être aussi question de homard avec l'ami Laurent Delmas. Oui, quand la cuisine en mer fait son cinéma, eh bien notre cinéphile nous a sélectionné quelques scènes croustillantes.
France Inter.
3, 4. Allez-y.
On va déguster.
Vous avez entendu le...
Mais évidemment, on l'a reconnu.
Moi enfin, j'adore le...
Très bien. Louis,
Louis de Funès, non, dans le
Louis de Funès, bien sûr.
Dans le restaurant.
C'est à vous, cher Laurent.
Alors, au cinéma, comme dans la vraie vie, François Régis, on associe paquebot et cuisine de luxe. Mm-hmm. Hein. Et pourtant, même sur le France, dans un film de 1965, on peut manger très simplement. Surtout quand sont à table des gendarmes de Saint-Tropez en route pour New York.
Je prendrai juste un potage et un fruit. J'ai l'appétit coupé. Vous devinez pourquoi, après chaud.
Écoutez, mon adjudant, s'il n'est pas là dans 5 minutes, je le porte déserteur. Et puis, hey, oh, vous prendrez pour lui. Hein.
Qu'est-ce que ça ? Monsieur ?
Non, rien, j'ai fini, j'ai pas faim.
Il est peut-être tombé à la mer.
C'est sa seule chance d'éviter le conseil de guerre.
Sa seule.
Qu'est-ce que c'est le chicken soup ?
Je n'en sais rien. Donnez-lui un œuf et des coquillettes.
C'était modeste, hein, comme menu quand même.
Très. Alors, franchement, c'était une spéciale dédicace à Jérôme Gagnès, dont ce gendarme à Saint-Tropez est l'un des films préférés.
Non.
Ben si, comme quoi on peut avoir le palais fin non, et des goûts vrai. Cinématographiques moins affûtés, mais là, c'est une autre histoire.
C'est faux. Je m'inscris en faux.
Ce que l'on vient d'entendre, c'est un peu l'exception qui confirme la règle d'une restauration maritime haut de gamme. La plus belle scène de toute l'histoire du cinéma. Mm-hmm. On la trouve peut-être, à mes yeux en tous les cas, dans le merveilleux film de Fellini, Et la nave va. Il a été tourné en studio et donc dans un paquebot absolument fictif nommé Gloria N. Cette scène que nous allons entendre ne comporte aucun dialogue.
Ah ben ça va nous arranger.
Je vais donc vous la raconter, rassurez-vous, tandis que l'on entendra la musique qui l'accompagne signée Gianfranco Plemizio. Alors oui, un scoop, ce sera donc la première scène de cinéma en audio description de toute l'histoire dont on va déguster. La caméra du cinéaste se promène d'abord dans les cuisines où tout le monde s'affaire. Et tendez bien l'oreille, on entend même les couteaux qui s'aiguisent. Eh oui, la musique est aussi vive que les cuistots et leurs aides qui s'agitent en tous sens. On y découvre des marmites pleines de volailles, d'autres emplis de homards, précisément. Une petite bagarre éclate entre garçons de cuisine. On voit d'immenses pianos et leurs fours qui vont avec. C'est un ballet incessant de serveurs et de maîtres d'hôtel. Les uns apportent les commandes, tandis que les autres emportent les plats sur d'immenses plateaux. Avec eux, on pénètre dans la magnifique salle de restaurant aux tables rondes richement dressées. Un petit orchestre de chambre joue une musique, évidemment différente de celle des cuisines. Et d'ailleurs, luxe, calme et volupté oblige, Fellini tourne cette fois la scène au ralenti. On distingue nettement un énorme saumon mayonnaise servi à l'assiette depuis un chariot rutilant conduit par un serveur ganté de blanc. On voit même une volaille avec ses plumes couronner ce qui pourrait bien être un pâté en croûte. Au centre de ce restaurant flottant trône l'immense table des desserts. C'est la vie de paquebot, quoi. Mais, il faut bien l'avouer, un genre particulier a envahi les paquebots de cinéma. C'est le film catastrophe. Il est de tradition de montrer les passagers faire sans le savoir et dans l'insouciance absolue leur dernier repas avant d'aller eux-mêmes nourrir les crabes au fond de l'océan. Oui, je sais, il n'y a pas de crabe au fond de l'océan. Bon, c'est une image. Le vaisseau amiral de cette tendance lourde, c'est évidemment le Titanic. Et notamment dans sa version quasi-documentaire, filmée par James Cameron. On sait conserver sur ce paquebot des homards, encore et toujours, des cailles d'Égypte, des raisins de serre et des pêches fraîches, notamment. Et du caviar, évidemment. Et c'est même Leonardo DiCaprio, le roturier au culot d'acier, qui nous le dit.
Boussaille pour moi. Partez du couvert à l'extérieur en revenant vers l'assiette.
Il en connaît le moindre rivet, n'est-ce pas, Thomas ?
C'est exact.
Votre bateau est une merveille, Monsieur Andrews, vraiment.
Merci, Rose.
Comment voulez-vous votre caviar, monsieur ?
Pas de caviar pour moi, merci.
Je n'ai jamais aimé ça.
Alors, pour se quitter en musique, retour dans les cuisines du Gloria N de Fellini, avec cette scène où des musiciens se servent de l'incroyable verrerie de cristal du navire pour jouer du Schubert devant l'ensemble du personnel des cuisines absolument émerveillés.
Aveva, Fellini, ça donne envie de se replonger dans ce film.
C'est une merveille.
Merci pour cette chronique. Vous étiez très crédible en audio descripteur.
Merci, j'ai une carrière qui s'ouvre.
Et une nouvelle carrière s'ouvre à vous, Charles-Laurent.
C'est ça. Merci Jérôme, ça me fait plaisir.
Un grand merci, Laurent Delmas. On va continuer à évoquer évidemment cette très belle aventure maritime et gastronomique du paquebot France. On fête le 60e anniversaire de sa première traversée transatlantique en 1962. Juliette Armanet et Sébastien avec le titre Vertigo. On sillonne la gastronomie du paquebot France.
On va déguster. Sur France Inter.
Dès 1962, quelques mois après la mise en service du flagship de la French Line, son chef de cuisine d'alors, Raymond Grangier, reçoit les honneurs de ses pairs. Le titre de chef de l'année, décerné par les académies culinaires de France et des États-Unis. France, the finest restaurant in the world, écrit même le très réputé Greg Claiborne, le critique gastronomique du New York Times.
Cinq chefs se sont succédés au fourneau du paquebot France pendant les 12 ans où il fut en activité sous pavillon français, de 1962 à 1974. Loïc Bianassi, qui officiait au fourneau du France? Est-ce que c'était des chefs prestigieux, des Ducasse ou des Robuchon de l'époque, ou est-ce que c'était plutôt des hommes de l'ombre?
Alors, homme de l'ombre, on peut dire ça si on veut. C'est-à-dire que ça a été un peu dit au début de l'émission. Il s'effaçait un peu derrière l'institution. C'est-à-dire que c'était la cuisine de la Transat, de la CGT, hein, Compagnie Générale Transatlantique. Et il y avait une tradition, celle qu'on a évoquée en fait. Terroir, cuisine classique française. Ce qui fait que cette cuisine était à la fois reconnu, j'allais dire mondialement, parce qu'en effet, le monde entier pouvait monter sur le France, les Américains montaient sur le France, c'est ce qu'on voulait du France. Donc la qualité de cette cuisine, de cette gastronomie était reconnue. La qualité de ces chefs qui exerçaient dans des conditions extrêmement difficiles était reconnue. Il faut savoir que, par exemple, il n'y avait jamais le même plat proposé durant une traversée. On devait exaucer tout souhait d'un voyageur de première classe. C'est-à-dire que si tel voyageur souhaite tel plat, on devait lui servir. Donc, ces contraintes vis-à-vis des voyageurs et ces contraintes dans l'organisation des cuisines, hein, on imagine bien à quel point c'était compliqué de cuisiner sur un bateau, fait que, en effet, c'était des chefs de haut vol, mais que ce n'était pas des créateurs, c'était pas une cuisine réellement originale.
Et il y avait justement un outil de travail à la hauteur de ses ambitions culinaires.
Tout à fait. On avait un fourneau, une sorte de long fourneau central de 13 mètres de long, avec de chaque côté, en fait, 56 feu, donc sur 13 mètres avec les équipes. Vous imaginez l'organisation dans un espace très contraint. Donc tout ça en tout, une brigade de 160 cuisiniers.
160 cuisiniers.
160 cuisiniers, oui. Et puis après, à côté de ça, on avait 12 pâtissiers, 8 boulangers, 8 bouchers, 13 cuisiniers pour le buffet, parce qu'il y a toujours un buffet qui a été proposé. Un travail, et ça, tous les témoignages concordent, extrêmement rude, extrêmement difficile, 10 heures par jour, avec en plus les horaires qui changeaient en permanence, puisque le France passait des fuseaux horaires. Donc on imagine la contrainte pendant 10 jours. En gros, il fallait produire, dormir, manger un peu, produire, dormir. C'était vraiment... Déjà, le métier de cuisinier, c'est quand même quelque chose de très exigeant. Là, on était dans ce qui peut être le plus exigeant pour le métier de cuisinier, incontestablement. Alors, bien rémunéré. C'est-à-dire que, clairement, par contre, pour la Transat, ça avait aussi attiré des talents parce qu'elle rémunérait bien ceux qui travaillaient pour elle, au fourneau. Mais c'est, en effet, vraiment une performance que cette cuisine du France. Donc, encore une fois, peut-être des hommes de l'ombre, mais qui réalisaient sans doute ce qui pouvait se faire de mieux pour la cuisine française classique, celle qu'on attendait, celle que les voyageurs attendaient durant les Trente Glorieuses.
J'ai lu qu'il y avait 2 machines à laver capables de laver 5000 assiettes à l'heure et une troisième qui en lavait 7000 à l'heure. Donc c'était vraiment effectivement des proportions gigantesques.
Hein. C'est ça, on est dans une sorte de performance, hein, clairement.
On entendait Raymond Granger, qui fut l'un des 5 chefs, hein, je le disais, du France, mais dans une interview sur laquelle on est retombé, du chef Henri Lehuédé. Dans la presse américaine, eh ben, on sent sa fierté de servir à bord des cailles à la Souvarov. Ce sont des cailles farcies aux truffes et au foie gras, plat emblématique du 19e siècle. Et il dit, Escoffier l'aurait fait pour 30 ou 40 convives, nous en avons envoyé presque 5000, mais je ne crois pas que je recommencerai, ce fut un vrai tour de force. Eh bien justement, on va contempler son menu du 28 avril 1972, coincé entre artichaut de Frioul tiède à l'huile vierge et risotto piémontais. Alors là, on est quand même moins dans des influences françaises. Il y a heureusement peut-être bien l'une des garnitures légumières les plus glorieuses de la gastronomie française. C'est Marie-Josée Jarmont et c'est vous qui avez choisi cette spécialité.
Les petits pois à la française.
Les petits pois à la française. Là, pour le coup, on peut pas dire vraiment que ces petits pois sont oubliés, hein, contrairement au potage Germini. Définition des petits pois à la française, Marie-Josée Jarmont.
Alors, ce sont des petits pois qui sont étuvés avec des petits oignons et de la laitue. Tout ça lié au beurre.
Tout ça lié au beurre. Donc c'est une recette, Loïc Bianassi, qui aurait été codifiée là aussi par Escoffier. Hein.
Ah, on la trouve avant. Quand la grande cuisine française commence à s'affirmer dans son identité au XVIIe siècle, on a des façons d'accommoder les petits pois qui se rapprochent déjà de ça. Ça s'oppose aux petits pois à l'anglaise, hein, qui eux sont à l'eau.
En fait. Et qui sont bien moins voilà. Bons, évidemment.
Et on trouve d'ailleurs ces petits pois à la
France. Bataille navale continue, France-Angleterre.
Bah justement, elle n'est pas trop navale du côté français, puisqu'on utilise du beurre. Et on trouve ça aussi dans les menus des paquebots, dès le XIXe siècle aussi, ces petits pois à la française. C'est vrai que c'est un des grands marqueurs de la cuisine française. Hein.
Marie-Josée Jarmont, racontez-nous votre recette. Vous êtes, je le précise, devant la plaque de cuisson dont on va déguster. Vous nous faites tout ça en live.
Oui, j'ai donc ajouté, moi, des lardons. Donc après, ça devient la garniture bonne femme.
D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de lardons. On pense souvent qu'il y a des lardons dans les petits pois à la française. Ce n'est pas le cas. Alors, vous avez un beau sautoir en cuivre que vous êtes en train de faire chauffer pour y faire fondre un peu de beurre.
Alors après, je vais y faire fondre les oignons.
Petits oignons nouveaux ?
Oui, tout à fait.
Ça commence à chanter.
Avec un petit peu de poivre et de sel.
Là, l'idée, c'est de les faire suer.
Qui rendent un petit peu leur eau avec une petite gousse d'ail. Voilà. Après, on peut rajouter ces fameux petits lardons fumés, salés.
Dont le gras va venir nourrir, j'imagine, vos oignons.
Tout à fait. Préalablement blanchis pour qu'ils soient un peu moins gras et moins salés. Là, ça commence à sentir très bon.
Les odeurs d'oignons rissolés viennent me caresser les narines.
Le beurre, c'est la vie. Hein. On va y ajouter nos fameux petits pois.
Ces petits pois sont évidemment écossais. Est-ce que vous les avez préalablement légèrement blanchis ou...
Oui, normalement non, mais là oui. Parce qu'après, ils cuisent avec les petits lardons et les oignons et ça fait osmose et ça fait...
C'est-à-dire que là, vous avez, en gros, accéléré un peu une étape, voilà, c'est ça que vous nous dites. Hein. Ils ont été plongés dans l'eau bouillante salée pendant combien de temps?
Juste quand ils remontent, hop.
Et on les plonge pas dans l'eau glacée après? Moi, j'ai
tout à fait, ça stoppe la cuisson. D'accord. Et ça garde le...
Et ça fixe la chlorophylle.
Tout à fait.
Il a quelques notions de cuisine quand même, Delmas.
Après, on mouille avec un petit peu d'eau, normalement. Ouais. Ça déglace le fond de la poêle.
Ah, que c'est joli. Ils viennent d'où, vos petits pois, Marie-Josée Germont?
Ils viennent de France.
Sachant que je tiens à préciser, alors j'ai posé une colle à mon ami Jérôme Gagnès, sur le menu du paquebot France, petits pois à la française en provenance d'Ezine en 1972. Ezine, E-Y-S-I-N-E-S.
Bah, en fait, j'ai emménagé à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Donc...
Ah, donc vous savez? On est donc en Gironde.
Oui, c'est assez limitrophe de Bordeaux. C'est tout à côté de Bordeaux.
Une bise aux habitants d'Ezine.
Exactement, on les salue bien bas.
On finit avec la fameuse laitue.
On fait tomber la laitue au dernier moment, puisque c'est le légume, entre guillemets, le plus fragile.
Juste un petit coup de...
Elle est à peine tombée, là. Vous la faites vraiment à peine tomber.
Hein. Et c'est ce qui
Regardez
fait tout,
la beauté de ce vert acide dans cette poêlée. Ça mérite vraiment une photo.
Garde la fraîcheur du plat.
Ça mérite surtout de finir sous mon palais.
Ah oui, ça c'est... On a faim.
Les assiettes de petits pois à la française sont en train de circuler autour du plateau. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Laurent?
Ben, ça fond, ça croustille un peu, hein, c'est suave. C'est des petits pois tels qu'on les aime et qu'on les rêve et dont on nous a dégoûtés, il faut bien le dire, dans l'enfance avec des petits
pois en conserve, juste un peu croquant,
de cantine. Là, c'est formidable.
Doux. C'est les bonbons du potager.
Mais exactement, c'est-à-dire que ça se mange tout seul. On dit parfois que c'est un accompagnement. Non, c'est même pas un accompagnement, c'est un plat.
Je suis d'accord, c'est pas une garniture.
Mais pas du tout, il faut manger ça comme ça et c'est délicieux.
Loïc, bien assis.
Alors d'ailleurs, ça pouvait tout à fait être le cas sur le type de menu du France, c'est-à-dire voilà, ça figurait comme un légume qu'on pouvait prendre comme ça. Et c'est vraiment délicieux.
Quel régal. Jérôme, ça va? Ça se passe bien?
C'est absolument formidable.
Bon, j'attends que Jérôme Gagnès ait la bouche pleine parce que je compte lui donner la parole, justement. Peut-être va-t-il réussir à composer un mariage de rêve entre ces magnifiques petits pois à la française. Un sincère bravo, Marie-Josée Germont.
Ah oui.
C'est vraiment un plat extraordinaire. C'est le luxe absolu. Et le vin mystère de notre ami Jérôme Gagnès.
On va déguster sur France Inter.
Il y a un choix qu'il n'y a pas tellement de restaurants qui l'ont à terre. Il y avait une faiblesse quand même, c'est la question des vieux millésimes. Parce qu'un navire, même le France, ça trépide. Et puis, il y a du roulis, et puis du tangage. Donc, des vins qui risquaient d'avoir un peu de dépôt, on ne pouvait pas les avoir à bord. C'était le seul point faible, si vous voulez. Autrement, il y avait naturellement une gamme de vins extraordinaire et à des prix qui n'ont aucun rapport avec les prix pratiqués à terre, même à l'époque.
Une interview de Jean Joubert qui date de 1990 sur l'antenne de France Inter. C'est toujours l'émission de Claude Villers d'ailleurs, avec son accent irrésistible, son accent...
Titi parisien, magnifique.
Oui, c'est ça.
Et c'est très amusant.
Et il fut sommelier sur le France.
Et bien justement, il fait une remarque. Moi, quand Loïc Ganassi m'a envoyé les cartes des vins, une chose m'a frappé, c'est le prix des vins, que j'ai trouvé incroyablement bas. J'ai fait un petit calcul, très simple. J'ai pris le prix des premiers crus de Bordeaux, donc des premiers crus, la Tour, Margaux, Lafitte, Rothschild, Mouton Rothschild, Aubryon. Ils sont vendus à 70 francs. Et j'ai converti 70 francs de 1971 en euros constants, en euros de 2021. Et bien, figurez-vous qu'une bouteille de Aubryon était vendue 75 de nos euros d'aujourd'hui.
Par rapport au prix d'aujourd'hui, ce serait presque raisonnable.
Et parce qu'évidemment, Aubryon n'était pas au prix qu'il est aujourd'hui au domaine à l'époque.
Bien sûr,
c'était beaucoup moins cher. Néanmoins, là, il y a quand même un prix qui est incroyablement bas. Parce que dans la restauration, dans les grands restaurants à la même époque, Aubryon n'est pas à ce prix-là, évidemment.
Bon, alors... Le vin dont vous allez nous parler aujourd'hui, Jérôme, de franc rapport avec le France. Hein.
Non, pas de rapport, bien qu'il y en eût sûrement à un moment ou à un autre sur ce fier navire. Non, là, en l'occurrence, résultat de mon énigme, c'était donc...
Tandem de Patrice Lecomte, avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot.
Ah, vous l'avez eu?
Tandem. Immédiatement.
Mais oui. C'est un film que nous aimons ici beaucoup.
Oui,
France Inter.
C'est un film absolument...
Le jeu dans le film s'appelle La Langue au Chat.
Le jeu des 1000 francs. À l'époque.
Alors pourquoi Tandem? Eh bien c'est parce qu'en fait j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce vin. Je suis allé traîner mes guêtres dans le sud-ouest, Gaillac, Fronton, Madiran, j'ai goûté plein de choses passionnantes. J'ai beaucoup aimé ma dégustation à Gaillac et je suis tombé sur cette bouteille qui s'appelle donc Tandem. C'est l'œuvre, disons-le clairement...
Ah, on peut parler d'œuvre là.
D'Amandine Boissel, domaine de Brousse.
Oh là là, quelle révélation!
C'est une co-fermentation de Duras et de Loin de l'œil. Alors, ce sont des noms qui évoquent, qui sont tout à fait extraordinaires. Donc voilà, co-fermentation. On a mis ce raisin blanc, le Loin de l'œil, ce raisin rouge, le Duras, on les a récoltés ensemble, on les met dans la cuve et on part à la pêche. Ils font leur petite affaire ensemble et ils donnent naissance à ce très très joli vin qui est entre le rouge et le clairet, qui est d'un soyeux de texture absolument formidable, qui est d'un rafraîchissant extraordinaire. Et on tient là le vrai vin de soif de nos rêves, juteux sur la cerise, avec un équilibre parfait
c'est
entre
un
une
peu
certaine
grilloté.
Acidité. C'est grilloté, c'est vraiment un rêve de vin. Ça vaut 11 euros, ça s'appelle du bénévolat. Parce que
bon,
c'est
n'exagérons
vraiment...
pas quand même. C'est... Non, non, mais pour tous ceux qui nous écoutent, ça reste
bio,
évidemment un prix.
Les rendements, non,
bien sûr.
Le travail est formidable. C'est un domaine qu'Amandine a repris en 2016. Je vous ai aussi ouvert une autre cuvée qui s'appelle le Brocol, qui est un cépage typiquement gaillacois, qui est absolument superbe aussi, dans un registre un tout petit peu plus structuré. Je voudrais vous dire un mot de Gaillac, parce que c'est une appellation... Moi, j'avais, c'est vrai, je dois reconnaître, une idée qui était un a priori en tout cas, avec des vins qui étaient parfois un petit peu rustiques, avec des structures tanniques qui étaient un peu anguleuses. Ça fait quelques années que je regoute des vins qui me plaisent beaucoup. Nous reçûmes ici
Bernard Plageol
pour l'émission sur les cépages modestes.
Et qui a énormément contribué à la biodiversité des cépages.
Considérablement contribué, ainsi que son père, Robert, à réintroduire ces cépages, le Brocol, le Duras.
On le salue parce qu'il nous écoute souvent.
Tout à fait. Et donc j'ai goûté des vins merveilleux. Et c'est une appellation qui est bien dynamique. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai goûté des jolis vins. Et il y a dans cette association Terre de Gaillac. C'est une association, c'est 14 vignerons qui se sont regroupés et qui ont réalisé le rêve, ce que voulait faire René Renoux, qui était ce brillant président de l'INAO au début des années 2000. Malheureusement, René Renoux a été emporté par une crise cardiaque qui n'a pas eu le temps de mettre son projet à exécution, qui était un formidable projet, c'était les AOC d'excellence. On prend une AOC, on fait un cahier des charges, donc un règlement d'AOC qui est plus exigeant. Ceux qui veulent s'y mettre ont l'AOC d'excellence. C'était une façon de tirer tout le monde vers le haut parce qu'on avait envie d'aller vers l'excellence. Eh bien, à Gaillac, à l'initiative de Patrice Lescaret, de Bernard Plageol, on a la création de cette association qui s'appelle Terre de Gaillac. On doit être bio, vendange manuelle, des vinifications en levure indigène, utilisation en grande priorité des cépages endémiques de l'appellation. Donc cette association, elle tire tout le monde vers le haut et ça fait 14 domaines qui font des vins admirables. Et je crois que ce qu'on goûte là, Tandem et la cuvée l'origine du domaine de Brousse, c'est un peu le Gaillac nouveau d'une certaine façon. Mais voilà, Amandine, elle m'a tapé dans l'œil, on va dire, avec ses cuvées.
Ah, et comment? Alors là, on a tous un coup de foudre autour de cette émission. Vive ces vins et notamment la cuvée Tandem. Un grand merci, vive Gaillac, département
du Tarn.
Bravo. L'émission a une fin, mais le France a aussi eu une fin assez triste.
L'âge d'or des paquebots, c'est qu'on ne pouvait traverser l'Atlantique qu'en bateau. Ça, il faut s'en rendre compte. Donc à partir du moment où il y a la concurrence aérienne, le France a été de moins en moins rentable, a commencé à perdre des millions. En 74, le gouvernement a coupé les subventions et donc là, c'en était fini. On se rend pas compte d'ailleurs de l'impact...
Il y a eu un débat public à l'époque.
Absolument.
Qui était incroyable, pour ou contre le désarmement du France. En 1979, le navire doit se rendre en Allemagne où il sera transformé en bateau de croisière norvégien. Le France deviendra le Norway et il voguera jusqu'en 2003.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté.
C'est sur cette célèbre chanson de Michel Sardou rendant hommage aux France que l'on se quitte. Vous avez également un événement culturel à nous signaler,
oui,
cher Loïc.
Tout à fait, il va y avoir une exposition au musée portuaire de Dunkerque pour les 30 ans du musée sur la gastronomie à bord des paquebots du 30 juin au 5 mars 2023 avec comme commissaire scientifique Jean-Baptiste Schneider qui, j'avoue, m'a bien aidé pour préparer cette émission.
Eh bien, écoutez, on ira ensemble voir cette exposition, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une aventure passionnante que cette gastronomie des mers. Merci beaucoup Loïc Bienassi, à la prochaine. Hein. Et un immense merci à vous, Marie-Josée Jarmon, chef du ministère des Outre-mer, et merci pour ces deux très belles recettes légumières. Hein. Franchement, vous méritez
merci
nos applaudissements. On peut retrouver le potage Germini ainsi que vos petits pois à la française sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Merci Laurent Delmas.
Et vous, Glenavier.
Vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
Jérôme Gagnez, en revanche, on va le laisser un peu chez lui. Hein.
On va le laisser décanter un peu.
La semaine prochaine, à l'occasion du dimanche de Pâques, on parle, devinez quoi ? Chocolat. De l'arbre jusqu'à la tablette, avec notamment Stéphane Bonnat, l'un des meilleurs maîtres chocolatiers féviers de France, à Voiron, en Isère. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.